Radio Okapi. Journal présenté par Belinda Bossouma.
Panique à Minova, à la limite entre le nord et le sud Kivu. Situation consécutive à la chute d'autres bombes larguées hier matin par le M23, rapportent des sources sur place. Ces bombes n'ont fait aucune victime humaine. Ce serait une réponse des rebelles au bombardement de l'armée contre leur position. Les marchés de Mbujimayi, inondés de plusieurs poissons avariés provenant de Kalemie, de Bukama et de Lubumbashi. Les propriétaires de ces produits accusent la SNCC d'acheminer leurs marchandises à Mweneditu plus de 6 mois après leur embarquement. Mais pour la SNCC Mweneditu, ses clients devraient contacter les services litiges. Et puis, la production du thé dans la partie sud du Nord Kivu est à l'arrêt depuis 1998. Situation consécutive à la guerre continue dans cette province. Révélation du directeur provincial de l'Office national des produits agricoles du Congo en marge de la journée mondiale du thé. Jean Chrysostome Njakemala est l'invité de ce journal. Madame, Messieurs, bonjour. Une véritable psychose a gagné la population civile hier jeudi dans la localité de Minova. C'est dans le territoire de Kalehe, au sud Kivu, à la limite avec Bweremana, qui se trouve au nord Kivu. Selon des sources sur place, la situation est consécutive à la chute d'autres bombes larguées dans la matinée par les rebelles du M23. Ce serait une réponse des rebelles au bombardement de l'armée contre leur position sur les collines surplombant Bweremana. Le récit de Bernardin Nyangi.
6-3 bombes des rebelles tombées autour de 10h locales ce jeudi, une à Ludaouga, proche du complexe scolaire Mwanga et à Bougueri, n'ont fait aucune victime humaine. Elles sont toutefois à l'origine d'une forte panique dans la cité. Le complexe scolaire Mwanga s'est vu vite vidé de ses élèves et certains habitants ont rapidement évacué leurs familles de cette partie est de la cité de Minova. Rappelons que depuis mercredi, l'armée congolaise cible par des tirs d'artillerie depuis Minova et Bweremana, les positions du M23 sur les collines surplombant ces entités. Selon nos sources à Minova, dans la soirée, un obus de réplique du M23 est tombé sur la paroisse catholique de Bobandana, causant un blessé parmi les civils. Les bombes s'ajoutent à des dizaines d'autres qui sont déjà tombées sur Minova depuis l'occupation par les rebelles du M23 des collines surplombant la zone. Ce qui panique les habitants ainsi que plusieurs milliers de déplacés venus des territoires de Masisi. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
Et ces engins, justement, lancés à partir de la ligne de front à Masisi dans le Nord Kivu, ont dévasté des champs, des bananeraies et des cannes à sucre. Information livrée par le président du cadre de concertation de la société civile de Kalehe au Sud Kivu, Delphin Birimbi, explique au micro de Jean Kassami.
Avant midi du jeudi 23 mai 2024, 3 bombes en provenance des collines du côté des rebelles M23 au Nord Kivu venaient de tomber dans le centre de Minova, dont 2 au niveau de Ludaouba, près du complexe scolaire Mwanga, et une autre bombe à Mubimbi, sur la route vers Bougueri. Sur place, les champs de bananeraies et de cannes à sucre venaient d'être dévastés par ces bombes. Hier, il y a encore une autre bombe qui est tombée au couvent de Sœur Marie de Bobandano, qui a eu comme bilan une personne qui a été blessée. Et donc, les bombes sont déjà récurrentes sur l'axe Kalehe dans la province du Sud Kivu.
Par ailleurs, sachez que l'intensité des combats a baissé hier soir autour de Bweremana et Minova au sud du territoire de Masisi. C'est après des violents combats qui y ont opposé toute la matinée les FARDC et leurs alliés aux rebelles du M23 RDF. Selon nos sources à Bweremana, l'armée a récupéré une colline stratégique de Numba qui était une autre position importante tenue par les rebelles du M23. Ces sources ajoutent qu'à l'issue des 2 jours d'attaque d'artillerie, l'armée et ses alliés ont réussi à libérer plusieurs localités dans la zone, dont Chacha et la colline de Kiluku, surplombant ce village. Du côté de la Ruindi, territoire de Rutshuru, les lignes n'ont toujours pas bougé après les 2 jours d'attaque d'artillerie de la part des FARDC ciblant cette position rebelle. Et puis cette vive tension entre militaires et civils hier jeudi à Katana, dans le territoire de Kabare, nous sommes au sud Kivu. On parle des pertes en vies humaines, mais le chiffre diffère selon des sources. Qu'est-ce qui s'est passé réellement, Jean Kassami?
Tout est parti des malentendus autour d'une affaire d'amour, réelle ou forcée. Un militaire a ouvert le feu sur le père biologique de la fille qu'il prétendait courtiser. Ça se passe à Kabushu, en groupement d'Irambi Katana, dans la nuit de mercredi à jeudi. Cet assassinat a provoqué la colère de la population civile qui a promené les corps jusqu'à Katana Centre. Des tirs de sommation ont retenti, faisant 3 morts parmi les civils dans l'avant-midi. La tension a dégénéré jusque tard dans la soirée et le nombre de victimes serait passé à 7. Le commandement de la 33e région militaire qui s'est rendu sur les lieux en début d'après-midi n'a pas encore confirmé ni infirmé ces informations. Jean Kassami, Bukavu, Radio Okapi.
Et en réaction à cette tension à Katana, le député Serge Bahati, élu de Kabare, exprime son exaspération. Il appelle la justice militaire à punir les coupables. On l'écoute au micro de Vanessa Nkongolo.
C'est avec consternation que nous avons appris les incidents malheureux qui ont eu lieu dans la nuit allant du 22 au 23 mai 2024 à Irambi Katana, dans le territoire de Kabare. Nous condamnons avec la dernière énergie les agissements de quelques militaires indisciplinés qui se sont livrés à des actes de tuerie, surtout dans ces moments où l'ensemble du peuple congolais est derrière nos braves militaires pour mettre fin à l'insécurité qui prévaut à l'est de notre pays. Nous invitons de ce fait la population au calme et l'encourageons à ne pas se livrer à la justice populaire. Nous adressons nos sincères condoléances à toute la population de Kabare, particulièrement à celle du groupement d'Irambi Katana. Nous exhortons les autorités tant nationales que locales à redoubler d'efforts pour améliorer le climat sécuritaire dans ce milieu. Nous demandons à la justice militaire de se saisir de ce cas d'égarement pour que les coupables soient punis conformément à la loi.
Je vous le disais en titre, plusieurs commerçants venus de Kalemie dans la province de Tanganyika, de Bukama et de Lubumbashi dans le Haut-Katanga déplorent le retard enregistré dans l'acheminement à Mweneditu dans le Lomami de leur cargaison composée des poissons secs, fumés, salés et des frétins. Plusieurs produits arrivés à Mweneditu sont déjà avariés, affirment les propriétaires de ces marchandises. Ils pointent du doigt la Société nationale de chemin de fer du Congo, SNCC, qu'ils accusent d'être à la base de cette situation. En réaction, le chef de service commercial de la SNCC Mweneditu affirme que tous ses clients n'ont pas contacté les services litiges de l'entreprise pour se faire indemniser. Explication Esther Ndalafina.
Les marchés de Mbujimayi sont inondés de plusieurs poissons avariés en provenance de Kalemie, de Bukama et de Lubumbashi. Certains propriétaires de ces produits affirment que leurs marchandises ont été acheminées à Mweneditu par la SNCC après avoir été embarquées depuis plus de 6 mois.
Regarde tout un sac avec des poissons salés avariés. La SNCC n'a pas voulu acheminer nos wagons à temps. Les poissons sont des produits périssables. Nos enfants ne seront plus étudiés. La SNCC nous a rendus pauvres.
Dominique Ilunga, directeur provincial de la Fédération des entreprises du Congo, FEC, demande à la SNCC de trouver des solutions avant le pire.
Le dysfonctionnement de la SNCC risque de causer des morts de suite de ces pertes. La SNCC, lorsqu'ils ont constaté qu'ils n'étaient pas à mesure de transporter, je crois qu'il était temps pour elles de restituer leur argent et leur cargaison.
Rémi Mukendi, chef de service commercial de la SNCC Mweneditu affirme qu'aucun client n'a contacté les services litiges de l'entreprise pour se faire indemniser. Signalons que la SNCC reconnaît tout de même avoir connu des difficultés dans l'acheminement à destination des marchandises de ses clients. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Autre nouvelle, le directeur de cabinet du ministre d'État en charge de l'urbanisme et habitat salue les bons résultats et l'amplification des sites d'intervention enregistrés dans le cadre du projet d'urgence et de résilience urbaine de Kananga, Purik. En effet, les membres du comité de pilotage de ce programme du gouvernement, financé par la Banque mondiale, ont tenu leur première session de travail hier à Kinshasa, tout en reconnaissant certaines contraintes et des cas de force majeure rencontrés jusque-là. Le représentant du ministre de l'urbanisme et habitat s'est réjouit de voir ce programme de développement résilient et durable des villes face aux impacts du dérèglement climatique s'est réalisé en RDC. André Malangou est au micro de Grace Mvuezolo.
Les activités du projet PURUK ou PURUK sont mises en œuvre sur base du plan de travail et budget annuel, PTPA en abrégé, validé par le comité de pilotage national et approuvé par l'Association internationale de développement, IDA, branche de la Banque mondiale. Ici est de relever que PURUK a démarré effectivement ses activités au début du mois de septembre 2023 et a connu plusieurs contraintes et cas de force majeure qui ont fortement impacté le déroulement des activités, notamment la mise en œuvre du plan d'action de réinstallation des personnes qui allaient être affectées par les travaux de génie civil. Les mesures correctives prises par les différentes parties prenantes ont permis de mettre le projet sur les rails, d'enregistrer de bons résultats et d'amplifier le nombre de sites d'intervention.
Attaque contre la résidence de Vital Kamerhe et le palais de la Nation le dimanche dernier, on en parle encore. Dans un communiqué de presse publié mardi, Justicia Asbel s'est dit indignée des images montrant les militaires en train d'exécuter les personnes présentées comme ayant fait partie des assaillants. Pour cette ONG de défense des droits de l'homme, la vie humaine est sacrée et l'État a l'obligation de la protéger. Ainsi, le président de Justicia Asbel demande à la justice d'interpeller tous les auteurs de ces actes. Timothée Mbouya est au micro de Jean Gandou.
Sur les réseaux sociaux circulent des vidéos montrant des éléments des FARDC, spécialement ceux de la garde républicaine, en train de tirer à bout portant sur des personnes identifiées comme membres du parti politique du Feu Christian Malanga. Ces personnes, déjà maîtrisées, inoffensives, des militaires, ils ont tiré sur quelqu'un qui était avec eux dans la Jeep. Ils ont également tiré sur quelqu'un qui nageait. Justicia estime qu'il s'agit là d'une exécution sommaire et extrajudiciaire pour lesquelles des personnes bien identifiées dans le vidéo devraient être poursuivies. C'est pour cela que Justicia a invité l'auditeur général militaire pour mettre l'action publique en mouvement, interroger et arrêter ces personnes et les déférer devant le juge pour que ces militaires soient poursuivis. Justicia a également saisi l'opportunité pour demander à la justice au service de renseignement militaire qui sont en train d'enquêter sur ces événements à les interroger suivant les règles de l'art et à ne pas recourir à la torture.
Culture, sociologie du journalisme des problèmes publics à la croisée des discours, caricatures et élections présidentielles en RDC, c'est l'intitulé d'un nouvel ouvrage écrit par Patient Ligodi, Achille Bounjoko et Tembokash. Le vernissage a eu lieu hier à Kinshasa. Dans ce livre de 280 pages, ces trois chercheurs disent documenter ce qu'a été la campagne électorale de 2023, quel a été le temps utilisé et les différents problèmes relayés par les candidats. On écoute à ce sujet Patient Ligodi au micro de Grace Amzati.
Nous sommes arrivés à la conclusion que les différents candidats ont pu mener leur discours essentiellement vers le terrain de la communication qui évitait les médias, qui évitait la critique, qui évitait d'être confronté à un échange, à une discussion avec les journalistes. Donc on avait d'un côté les meetings organisés par les candidats et de l'autre une communication numérique qui passait notamment par les biais d'influenceurs digitaux, mais également ce qu'on appelle les brigades numériques, mais aussi par les communicateurs politiques. L'une des conclusions de l'ouvrage, c'est de pouvoir renforcer le journalisme dans son rôle d'arbitre dans une campagne électorale pour que le journalisme arrive à placer plus ou moins les problèmes de la communauté, les problèmes de la société au centre des discours, au centre des échanges. Parce que ce qu'on a pu constater pendant la campagne électorale, c'était plus une sorte de monologue ou une sorte d'échanges entre différents candidats sans que les discours journalistiques qui incarnent plus ou moins les aspirations de la population ne puissent être omis.
Actualité internationale. Le président élu du Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno, vient de prêter serment lors d'une cérémonie devant plusieurs chefs d'État de la sous-région. Cette investiture met ainsi fin à la période de transition que dirigeait l'homme depuis la mort de son père. Ce dernier, le président Idriss Déby Itno, a été tué sur la ligne de front lors d'affrontements avec les rebelles en 2021. Il avait passé 3 décennies au pouvoir. Le scrutin avait été reporté à plusieurs reprises en raison d'un projet de révision constitutionnelle.
L'invité.
La production du thé dans la partie sud de la province du Nord Kivu est à l'arrêt depuis 1998. Des plantations déracinées et abandonnées et des usines complètement pillées. Cette situation fait suite à la guerre continue que connaît la province. Ainsi, les opérateurs économiques se tournent vers les pays frontaliers, ce qui constitue un manque à gagner pour l'État congolais, déplore un responsable qui gère cette filière, Jean Chrysostome Njakemala, directeur provincial de l'Office national des produits agricoles du Congo au NAPAC Nord Kivu. Nous parle ici de cette filière. Il s'entretient avec Denise Lukeso et c'était en marge de la célébration de la journée mondiale du thé le 21 mai.
Monsieur le directeur, bonjour.
Oui, bonjour madame.
En Nord Kivu, quel état des lieux de la culture du thé vous faites?
Aujourd'hui, l'exploitation du thé, c'est un peu difficile dans notre secteur de l'ONAPAC Goma. Parce que les exploitations de thé qui existaient, c'était dans les territoires de Masisi et une petite partie ici à Rutshuru. Et avec l'insécurité qui sévit actuellement dans cette région, presque toutes les usines ont été démontées. Et quand il n'y a pas des usines, vous savez que lorsqu'on récolte des thés, dans quelques heures, vous devez amener ces thés-là dans des usines pour la transformation. Mais malheureusement, toutes ces usines ont été d'abord démontées, pillées, et les plantations sont restées abandonnées et qu'aujourd'hui, un jour d'aujourd'hui en tout cas, dans notre secteur, là où nous contrôlons, c'est difficile. Mais néanmoins, nous enregistrons les thés qui nous proviennent de la province du Sud Kivu, là où il y a un peu des opérateurs économiques qui exploitent, mais difficilement les thés, et pour les amener à Kinshasa. Ici, sur place à Goma, nous avons des mamans qui se débrouillent, ils vont dans le Sud Kivu pour acheter du thé et les amener ici pour la consommation locale. Dans le petit nord ici, on est devenu seulement une région où les gens consomment les thés, et ces thés proviennent non seulement du Sud Kivu, mais aussi du Burundi.
Mais c'est l'idée, comme qui dirait, aujourd'hui, la culture du thé n'est plus pratiquée dans la partie sous votre gestion, donc la partie petit nord de la province.
Non, non. Cette situation nous handicape surtout dans les fonctionnements même de notre secteur. Vous savez que nous, ici à l'ONAPAC, nous sommes un secteur qui devrait générer des ressources et fonctionner. Mais pour le moment, on est vraiment paralysé suite à cette guerre. Donc c'est vers les années 97-98 que l'exploitation du thé s'est arrêtée dans la partie où nous contrôlons.
Les jardins théicoles de Ngueri, qui étaient une grande vaste concession où le thé était exploité, et réputé pour la culture, la production et la transformation du thé. Aujourd'hui, quel état de lieu de cette société que vous faites?
À un certain moment, un opérateur économique de la place, c'est lui qui exploitait ça, mais actuellement, avant même les hostilités, en tout cas la production n'était plus visible. Aujourd'hui, l'usine qui était là, c'est obsolète. Avant les années 96, la production était de 60 à 70 tonnes par trimestre. Donc plus ou moins 240 tonnes par an. Mais aujourd'hui, comme je vous ai dit ici, que c'est arrêté, ils ne font plus ça.
Même pas une tonne?
Non, même pas. Parce que comment aller faire? Parce que vous savez que ce n'est pas rentable. On ne peut investir ou travailler que lorsque vous savez que vous allez gagner.
Comme qui dirait que toutes les usines de production, de transformation du thé au Nord Kivu, dans la partie nord, ont déjà fermé?
Oui, oui, presque. Il y avait deux ou trois usines, mais toutes ces usines ont été fermées.
Et comment vous comparez le goût du thé ou la teneur du thé du Nord Kivu par rapport au thé que nous importons aujourd'hui?
La différence, c'est que, vous savez, ici en République démocratique du Congo, plus particulièrement les produits sous contrôle de l'ONAPAC, c'est-à-dire les produits agricoles pérennes d'exportation, nous, on n'admet pas les engrais chimiques ou introduit des engrais chimiques dans la production. Nous faisons l'agriculture bio et souvent notre thé est de qualité supérieure.
C'est possible de relancer la production du thé dans la province du Nord Kivu?
Mais effectivement, parce qu'il y a la demande. Il y a une forte demande à Kinshasa. Vous savez, je vais vous surprendre que même la production qui est dans le Grand Nord, là, c'est insuffisant. Et la plupart des opérateurs économiques recourent dans des pays frontaliers pour acheter l'été et amener ça dans les différentes agglomérations de notre pays, notamment la ville de Kinshasa. Si toutes les conditions sont réunies, investir dans cette filière thé, ce serait une bonne chose.
La production du thé a sensiblement diminué au Nord Kivu, si pas dire que les usines sont entrées en faillite ou ont carrément abandonné, fermé leurs portes. Et à quelles conditions vous pensez qu'on peut relancer cette filière du thé dans la province? Qu'est-ce qu'il faut pour qu'on relance cette filière?
Pour le thé, il y a la demande. Donc, on ne peut cultiver ces produits-là, thé, café, que dans de milieux ruraux. Nous pensons que s'il y a la sécurité et que l'État, dans son pouvoir régalien, aménage des routes, je pense que c'est faisable. La relance est là parce que nous avons des potentialités. Nous sommes dans une région montagneuse et nous pensons que les conditions, si elles sont remplies, on peut faire la relance de ces produits.
Monsieur Chrysostome, Radio Capi, vous remercie.
Voilà, c'était là notre invité, le directeur provincial de l'Office national des produits agricoles du Congo, ONAPAC, Nord Kivu. Il répondait aux questions de Denise Lukeso. Ainsi prend fin ce journal, supervisé par Pele Kipela Mondo. Jean-Claude Siala à la mise en onde. Merci de rester des nôtres.